Bonjour et bienvenue, nous sommes le samedi 8 mars 2008 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer,
maintenant,
le supplément week-end avec l'actu BD, ciné, DVD, TV.
Suivi de...
Ça c'est du sport, résultat sportif en direct des vestiaires et l'infirmerie.
Et ensuite
15h, Zarma Farai, c'est du reggae avec Koopa Christopher. 17h, ça c'est de la bonne viande, de la découverte musicale. 18h, Big Bang, encore du rock. 19h, Happy Hero. 20h, la CTRO Experience, du bien déjanté avec Jésus. 21h30, Two Step avec Neuf Love. Et à 23h, le potager, c'est du rock. Et devoir de réserve oblige, aujourd'hui, on ne doit pas parler de politique pour une raison technique toute simple, c'est que demain on vote donc pour les cantonales et pour les municipales. Déplacez-vous, n'oubliez pas. Thomas, toi tu votes chez tes parents, je crois, normalement.
Normalement, oui. Mais là, je suis à Toulouse, donc...
Bravo, tu laisses faire le premier tour par d'autres.
Voilà, ouais, mais j'ai toujours pas fait le changement d'adresse, je suis un gros flemmard, en fait.
Ouais, c'est ça.
J'en suis pas fier, hein.
Ok, ben bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous allons parler de tout, sauf de...
politique.
Mais non, surtout pas.
Ces événements se déroulent entre midi et 13h.
T-Power featuring Amaziri. Running, c'est le BLIM remix. Et ça, de 2000, je sais, mais c'était histoire que ça pète un peu en matinée. Radio. C'était histoire que ça démarre un petit peu. Donc je ne sais pas si vous avez écouté entre midi et 13h cette semaine la station FMR 89.1. Donc à la place des impromptus culturels, il y avait donc les candidats à la mairie de Toulouse qui sont intervenus. Je ne sais pas, j'ai pas le programme pour la semaine prochaine, mais a priori durant les mêmes heures devrait avoir le même genre de programme qui est prévu, avec évidemment les rescapés au second tour. Pour l'instant, je ne peux préciser. Thomas.
Oui, Xavier.
Un programme un petit peu ledge, c'est vrai, point de vue chronique pour moi, mais néanmoins on a beaucoup en partie magazine. Primo, il faut signaler les séances de dédicace. Je rappelle que tout à l'heure, donc à la librairie Gibert au premier étage, à partir de 14h30, il y aura Nicolas Poupon pour le troisième tome de sa série Le Cri de l'Autruche, qui s'appelle Le Chant du Kangourou, et Frédéric Salcedo pour Ratafia, le quatrième tome s'appelle Dans les coins tôt bizarres. Et les deux bouquins en question sont publiés dans la collection Très étrange chez Milan Edition. Lundi,
nous avons la Lutopia, une séance spéciale du film Pi de Darren Aronofsky, en présence des chercheurs toulousains pour démarrer la semaine du cerveau. Donc ce sera l'occasion de dialoguer avec eux sur des thèmes comme la quête scientifique, la douleur, le chaos, les psychotropes, des thèmes développés dans le film. Et si vous n'avez pas vu le film, ben allez-y. Bon, par contre, il est peut-être possible qu'il y ait plus de place en vente, parce que c'est une séance, une seule et unique. Donc c'est Pi de Darren Aronofsky, et c'est vraiment du très 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 très, très bon. Voilà.
Si vous êtes un petit peu dépressif, c'est pas le moment.
Note pour plus tard. Alors il est question de chiffres, de cabales, de bourse, des gens qui sont à ses trousses.
Absolument pas de Société Générale. N'allez pas chercher l'histoire des subprimes derrière, mais néanmoins sur un peu le côté, on ressent bien quand même le côté totalement abstrait, des sommes d'argent absolument monstrueuses. Et
c'est l'histoire d'un gars super intelligent qui essaie de déceler le mystère de Pi 314.
314, 15, 92, 65, 35, etc. Et puis j'ai oublié la suite, je sais seulement que le 32e chiffre est un zéro.
Voilà, et c'est un mec qui essaie de déceler le mystère de Pi et qui est poursuivi, qui pense que ses secrets en fait peuvent dévoiler les secrets de la bourse, du sens de la cabale, etc. Et il est poursuivi par toutes sortes de gens plus ou moins mal intentionnés. Et c'est vraiment c'est génial.
C'est à voir. Ah oui, il a fait un blanc, d'accord, ok. C'est la deuxième partie de Ghost, on en parlera tout à l'heure. En attendant, et du sport n'est pas encore là, donc je pense que peut-être il va en parler, de W9 et Virgin 17, je vais peut-être attendre la fin des news. Donc on saute directement à Gary Gygax, qui est décédé. Gary Gygax, c'est pas un nom que vous connaissez forcément si vous avez moins de 25 ans, ou que vous ne vous êtes pas intéressé à un certain niveau de contre-culture, ou de culture purement geek, puisque c'est ni plus ni moins que ça, le JDR. Gary Gygax, c'est l'inventeur de Donjons et Dragons. Donjons et Dragons, la grande aventure.
Quoi, le film avec Jeremy Irons? Ah non, pardon.
Non, il y a eu les dessins animés aussi avec Dorothée. Chanté par Dorothée, qui était pas mauvais. Non, ils étaient très très bons.
Ah, j'ai raté ça.
Ils étaient plutôt bien foutus, justement, ils reprenaient bien l'esprit. Donjons et Dragons, devenu par la suite Advanced Dungeons and Dragons, parce qu'il avait refait les règles et tout ça. C'est Gary Gygax, c'est le créateur du premier jeu de rôle et le considéré
papa.
Comme le meilleur raconteur d'univers médiéval fantastique. Il s'est éteint d'une suite d'une longue maladie, donc le 4 mars dernier. Fondateur de TSR, alias Talsorian Strategic Games, éditeur spécialisé dans le wargame, il crée en 1974 le principe du jeu raconté. C'est-à-dire, moi, je suis à la place d'avoir une régie avec des appareils et tout ça, mais à la place, devant moi, j'ai un paravent, j'ai des dés bizarres, et du sport et Thomas représentent des personnages fictifs, et moi, je vais raconter ce qui leur arrive, et c'est à eux de décider, au fur et à mesure... quelles orientations ils vont faire. Ah bah mon personnage il va faire ça. Ah bah non tu peux pas. Ah bah mon personnage il va pourfendre le méchant ogre.
Je vais essayer
avec une rapière, mon cher ami, avec un couteau suisse.
Je vais essayer de déceler un passage secret dans un mur. Alors fais plutôt un jet avec ton dé à six faces. Ah j'ai fait deux. Ah bah non tu.
Dommage. Bref, c'est vraiment l'invention, la réinvention, je veux dire, de raconter une histoire, de s'approprier une histoire, de transformer finalement ces petites aventures d'une soirée en de véritables campagnes où on crée des personnages fictifs qui deviennent vraiment mythologiques.
Ou perdre tes amis aussi.
Oui, ça c'est surtout le principe du grovibilisme qui a été inventé en France d'ailleurs. On va pas s'en vanter. Né en 1939, le grand maître du jeu a changé de plan d'existence le 4 mars dernier pour devenir une pure légende. Et ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il a dit. Et là, Thomas, tu vas pleurer. Les dés ne servent qu'à faire du bruit derrière le paravent du maître du jeu.
Et pourquoi il faut que je pleure?
Ah, parce que finalement, tout ne se fait pas forcément sur les G2D. Après, c'est le maître du jeu qui fait l'orientation et suivant son talent qui peut transformer une soirée, entre potes, en de véritables quêtes épiques qui donnent vraiment envie, des fois, de s'habiller et d'aller courir dans la forêt, habillé en barbare.
Voilà.
En train de tabasser sa race. Bref, Gary Gygax, on va beaucoup le regretter, il a fait énormément. Sans lui, il n'y aurait pas eu des jeux de rôle comme Star Wars, des jeux de rôle comme L'Appel de Cthulhu, qui ont permis de vraiment relancer l'univers Lovecraft. Voilà, Lovecraft n'aurait jamais redécollé sans le jeu de rôle qui a été écrit en 1977, et c'est un jeu de rôle qui a été inspiré justement du principe qu'avait édicté Gary Gygax dans Donjons et Dragons.
Il y a eu HeroQuest aussi.
Exact. À noter que le dernier patch de World of Warcraft est un hommage à Gary Gygax. Que Gary Gygax a fait des voix pour pas mal de jeux de rôle sur ordinateur. Même si on estime plus que c'est des jeux d'aventure, puisque jusqu'à très récemment, les jeux de rôle sur ordinateur n'avaient de rôle juste qu'une expression. Ils avaient pas vraiment la même flexibilité que un maître du jeu derrière son écran. Maintenant, on va voir, notamment avec Dofus, ce qui va arriver. Néanmoins, il reste le plaisir de jouer juste en racontant des histoires, et quelqu'un qui a préparé un petit script et qui le fait vivre à ses amis ou à des gens rencontrés au hasard. On va passer à autre chose. J'attends que du sport se mette en place. Du sport, est-ce que tu sais ce qui est arrivé cette semaine, enfin plus exactement hier, à nos amis de W9 et de Vagin 17? Du sport?
Non.
Ah, tu ne sais pas. Est-ce que tu sais que AB1, TF1,
j'ai regardé
NRJ12
les éliminations de la nouvelle star hier sur W9, donc a priori ça marche.
A priori ça marche, et ça a failli être l'écran noir. Petit rappel des faits, quand le CSA a attribué les fréquences de la TNT, c'était ok, mais il y avait un quota prévu à l'avance. Enfin, on avait dit tant de chaînes généralistes, tant de chaînes musicales, etc. Virgin 17, ex Europe 2 télé, était prévu sur donc un format musical, et W9 aussi. Ils ont fait changer leur conventionnement auprès du CSA. Le conventionnement, c'est le contrat qui lie le CSA avec le diffuseur. FMR en a un par exemple avec le CSA, comme quoi on a le droit de dire des conneries et de bavasser comme des salauds tant qu'on passe de la chanson française et qu'on évite de dire du mal de certaines personnes.
Alors, il paraît qu'en ce moment il faut faire attention parce qu'ils sont en train d'écouter, parce qu'il y a la réattribution des fréquences.
Voilà, donc bientôt, si on dit trop de conneries, on est zappé. Et merde, là c'est ce qui a failli.
C'est rétroactif.
Oui.
Non.
je déconne. C'est pour ça qu'on enregistre les programmes, voyons. Et qu'après on les met sur podcast. Vous allez les écouter sur supplémentweekend.tk. Pour en revenir donc à W9 et Virgin 17, leur format a été changé par rapport à l'appel d'offres qui a été fait, et donc TF1, AB et NRJ12 ont dit c'est pas normal, nous ça. Et donc ça s'est passé devant un tribunal, donc en appel des décisions du CSA, et ils ont décrété que d'accord, W9 non, et Virgin 17 non, on coupe. Sauf qu'ils ont voulu éviter l'écran noir, et donc ils ont dit, c'est très simple, W9, on casse la décision du CSA et reviennent à un format musical, immédiatement, donc depuis aujourd'hui. Et Virgin 17, ils ont jusqu'au 1er juillet, puisque là il était carrément question de, on annule l'attribution de fréquence, mais on leur laisse jusqu'au 1er juillet pour changer, pour revenir à un format, pour faire un nouveau conventionnement avec le CSA, et dans ce cas-là, ils gardent leur fréquence, et puis voilà. Donc, plus de musique, ça tombe bien, on aura un peu moins Made, Made in France et sur W9. C'est quoi déjà les programmes qui passent sur W9? Ah oui, les téléfilms pourris que même M6 n'a pas voulu. Ou encore menu W9. Ouais,
du sport, il fait la moue, il dit non, je suis pas d'accord.
Hein. Oui, je suis pas d'accord, je suis pas d'accord.
Bah non, il rediffuse les trucs de M6. Dont les la nouvelle star.
Ok. Thomas.
Oui.
Pardon. Je suis une légende.
Oui, oui, oui. Eh bien, je suis une légende, donc on peut
une
voir.
Chronique que tu as faite il y a 3 semaines, si je me souviens bien.
Ouais, un peu plus peut-être, mais enfin, il n'y a pas longtemps. Oui, donc on peut regarder en VO sur le net en ce moment. On mettra le lien sur la page de l'émission. La fin qui a été sucrée pour la sortie cinéma et qui sera probablement réintégrée pour la sortie DVD.
Focus Group m'a tué.
Voilà. une fin.
On rappelle le principe du Focus Group, peut-être.
Le Focus Group, c'est, alors c'est écrit F-O-C-U-S. Group, c'est des projections test, en fait.
On prend des gens au hasard dans voilà. Le Walmart. On leur dit, vous voulez voir un film gratuit? Il y aura, Will Smith dedans et ça sort que dans 3 mois.
Voilà, et après vous surtout vous dotez très précisément le film et vous répondez à des questions en mettant des croix. Et en fonction de ça, le studio peut demander, ou même pas demander du tout au réalisateur, de couper des trucs ou changer la fin.
Alors, je vous rassure de suite, ça ne se fait pas forcément à l'UGC à Toulouse. Non, ça se fait, par exemple, dans un hypermarché en périphérie de Clermont-Ferrand. C'est-à-dire, on prend des gens qui ne seraient pas forcément allés voir le film et qui ne correspondent pas, effectivement, à la volonté des fans. L'idée, c'est de satisfaire le plus grand public possible.
Voilà, et ce qu'il y a de rigolo, c'est que parfois, dans les focus group, vous avez le film qui se déroule normalement jusqu'à la fin et ensuite à un moment donné ils disent oui voici la fin alternative à la suite et qu'est-ce que la fin vous préférez et c'est un système qui a
là,
été
là ils ont retourné hein,
et c'est un système compris. Qui a été utilisé notamment dans 99 francs le film de Yann Kounen où à la fin on a les deux fins. Une fin alternative.
Oui, ils le disent dans le film, c'est-à-dire on vous montre à vous
voilà,
les deux.
C'est comme si on assistait à une projection, voilà, où on pouvait voter ensuite. Ouais, donc si vous pouvez vous faire une idée, allez voir 99 francs. Et donc cette fin, ma foi, est assez différente de la fin cinéma, qui était vraiment du n'importe quoi, mais cosmique, hein, où on voyait un Will Smith. Comment on peut parler de ces deux fins sans spoiler? Une fin, ma foi, assez ridicule, qui torpillait complètement le pitch de film, qui était très éloigné de la nouvelle de Richard Matheson.
Alors, rappelle, justement, le principe de la nouvelle de Richard Matheson, et pourquoi je suis une légende.
Eh bien, vas-y, toi, puisque je n'ai pas lu.
Alors, c'est l'histoire d'un type qui se retrouve donc sur une terre où tous les habitants sont devenus des vampires. Et lui, il est le dernier humain. Le dernier humain à l'ancienne, qui n'a pas été contaminé par un virus et qui ne soit pas devenu un vampire. Et donc, il est une légende, parce que les vampires, dans notre univers actuel, ce sont des personnages légendaires. Ben lui, c'est quelqu'un de légendaire, c'est le dernier humain, sur une planète où il n'y a que des vampires.
Voilà, sauf que dans la version cinéma, on peut la spoiler, parce que c'est une fin tellement merdique qu'elle ne mérite rien d'autre. À la fin, en fait, c'est expliqué pourquoi c'est une légende. Ben parce qu'en fait, il a trouvé le virus, qui s'est sacrifié, et qu'à la fin, il y a une communauté d'habitants, parce que c'est trop con qu'il soit le dernier. En fait, il y en a plein d'autres des derniers. Et ils se disent, oh là, mais c'est une légende, il est trop célèbre. Voilà, comment finit le film version cinéma, et il faut dire que la fin alternative est vachement mieux foutue.
Elle a été spoilée par un critique cinéma. C'est un critique cinéma qui a pris sur lui, qui a dit j'en ai ras le cul. Ouais. Je vais mettre effectivement ce qu'il y avait sur le DVD parce que je me rends compte que là, ça aurait vraiment fait un film.
Mais super chargé en émotions, super pertinent par rapport au message, par rapport énorme. Au film, dans la continuité. Et c'est film, une fin qui prend au boyau et qui tu sors du film et tu repenses au film contrairement à l'autre où tu dis bon, voilà, j'ai passé un bon moment, ben voilà, on va passer à autre chose. Et là, c'est une vraie fin.
C'est
quoi.
Très différent par rapport à la nouvelle, mais. On se prend quelque chose dans la gueule, vraiment,
et
littéralement.
Et surtout, qui est dans l'exacte continuité du reste du film, et qui, justement, si t'as pas vu le reste du film, tu peux pas comprendre la charge émotionnelle de la scène, voilà.
Ce qu'on a mis en fond depuis tout à l'heure, c'est du Nine Inch Nails. Nine Inch Nails,
c'est gay.
C'est un groupe qui a pas été très positif hein. En général, ça pète, mais ça pète dans le noir. Et ils ont tourné par exemple Further Down the Spiral dans dans une célèbre petite mansarde que personne ne veut sur Hollywood parce que il y a un fou furieux qui en 70 a tué 3 célèbres stars dedans à l'intérieur. Et c'est un groupe, c'est le groupe de Train 13 Noir. Il y a eu un certain Marilyn Manson qui a été batteur justement sur cet album. Et ils viennent de terminer leur contrat avec Warner. Ils sont en activité depuis 15 ans, plus même 15 ans à peu près. Et donc là, ils ont terminé leur contrat avec Warner et ils sortent un nouvel album qui s'appelle Ghost One Four, parce qu'il y a 4 sections dans cet album sur le net. À la différence de Radiohead, qui aussi a sorti son dernier album sur le net. Le quadruple album est en licence Creative Commons, c'est-à-dire que vous avez le droit de prendre cette musique, de la remixer, tant que vous dites que vous avez remixé Nine Inch Nails, que vous distribuez dans les mêmes termes et que vous n'en faites pas une exploitation commerciale. Alors, cette émission radio n'est pas en licence Creative Commons à cause des morceaux que l'on passe d'habitude, sinon on le mettrait immédiatement, mais c'est à peu près l'idée, c'est-à-dire, ok, j'ai le droit de redistribuer, de refaire de l'œuvre en question ce que je veux, mais je redistribue dans les mêmes termes et en signalant quels sont les éléments que j'ai pris qui sont dans la même licence. Sachant que si je ne le fais pas, si je veux le distribuer dans un autre truc, si je me fais un remix payant, etc., il suffit que je contacte le management et peut-être qu'ils seront d'accord. L'un n'interdit pas l'autre. C'est à négocier avec l'artiste. Sachant que le Creative Commons, il y a des films, il y a des peintures, il y a des bandes dessinées, il y a plein de choses à découvrir là-dessus. Dans cette licence-là, il y a plein de photos sous Flickr qui sont dans le Creative Commons. Et donc là, l'idée, donc c'est de libérer. Radiohead, eux, sur le net, avaient bloqué des fans qui avaient remixé les morceaux qu'ils laissaient librement télécharger sur le net. En disant non, vous n'avez pas le droit, et puis finalement en négociant coup par coup, parce que putain, c'était des remix qui pétaient sauvagement leur gueule, hein. On a passé quelques-uns de remix de Radiohead, ils étaient vraiment pas mauvais, finalement ils ont autorisé les diffusions de ces remix, mais c'était ambigu. Là en Creative Commons, vous en faites ce que vous voulez. Train 13 Nord a libéré d'entrée son album, 36 morceaux qui sont instrumentaux, c'est-à-dire ils sont pas parlés, donc dessus. Libre à vous. Si vous voulez, vous pouvez en faire la bande son d'un film, d'une chorégraphie, d'un rap, peuvent être des œuvres libres. C'est-à-dire par exemple Thomas, si jamais Thomas décide de refaire des courts-métrages et tout ça, si tu veux utiliser la bande son qu'il y a, il faudra que tu le redistribues de côté libre, je sais pas si ça te gêne ou si ça te gêne pas. Après, c'est au choix.
Le jour où je m'y remettrai, on en reparlera, mais là, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour.
Alors, plusieurs prix sont disponibles. De 9 morceaux gratuits en MP3, avec livret PDF et en photo. C'est le morceau que j'ai téléchargé pour vous les diffuser, justement. Au coffret DVD Blu-ray à $300. Il y en a pour tous les goûts. Et maintenez-vous bien. Le dit coffret a été sold out en moins de 24 heures. Les 2000 exemplaires à $300 sont partis. Ils ont déjà remboursé, en fait, la production de leur album.
Ouh.
Voilà.
Ça, c'est rentable, finalement.
C'est rentable. Contrairement à ce que l'on peut croire, oui, des gens sont prêts à payer pour la musique qui, théoriquement, sont aussi disponibles gratuitement. Oui, mais moi, je préfère, par exemple, le CD. Je vais sortir le double album en question qui va sortir en France en CD le 8 avril prochain. Je l'achèterai parce que, c'est quand même sympa. Faut dire aussi que lors de la dernière tournée de Nine Inch Nails, avec le dernier album qu'ils ont sorti chez Warner, vous avez raconté une histoire comme quoi des grosses entreprises essayaient de contrôler la culture, d'empêcher les copies et tout ça. Tiens, c'est un peu l'histoire des DRM et tout ça. Donc ils avaient filé, ils avaient joué un jeu à cache-cache avec ceux qui venaient à leur concert, ils n'avaient pas prévenu. Par exemple, tu vas aux toilettes pendant le concert et tout d'un coup, il se trouve qu'il y a une clé USB qui est scotchée sur le mur. Tu prends la clé USB, tu la ramènes chez toi, tu le mets et t'as des remixes inédits de l'album et il y a instruction dessus, c'est mettez-le sur votre site. Donc il y a des fans qui l'ont fait. C'était sur invitation du groupe. Le problème, c'est que les avocats de la Warner et la RIA ont refusé absolument. Donc ils ont porté plainte contre les groupes. Donc Train 13 Nord, ça a été compliqué. Ils ont fait pression sur leur manager en disant non, on les a autorisés. Et si c'est le cas, ben dans ce cas-là, on paie l'avocat aux fans en question et on témoigne devant le procès et vous allez perdre. Ça commençait à devenir bis-bis, hein. Ça commence à devenir vraiment très tendu entre certains artistes et leurs majors. Et pour cause. Vendre comme ça sur le net, leur rapporte beaucoup plus que vendre en CD. Train 13 Nord a gueulé contre, parce qu'il touche, je crois c'est ridicule, il touchait 50 centimes de dollars par album vendu en Australie de dollars canadiens alors que l'album était vendu 25$. Alors qu'avant sur le net, ben finalement ils ont pratiquement 80% de bénéfices. Hein, ça n'a aucun rapport. Bref, si les groupes majeurs comme Radiohead, comme Nine Inch Nails commencent à s'intéresser aux modèles open source, comme Linux, comme Firefox ou OpenOffice, c'est-à-dire qu'on peut faire des choses très très bien et les donner. Et demander aux gens, ben vous aussi, aidez à ce qu'on fasse la chose encore mieux. Eh ben, c'est que l'avenir est peut-être là. S'ils vendent en ligne sans passer par les majors et qu'ils gagnent plus de fric, eh ben c'est un gros finger aux majors, comme quoi justement leur modèle économique est condamné plus ou moins à s'effondrer, surtout après le coup qu'ils ont fait sur les DRM.
Ouais, mais moi je voudrais quand même mettre un petit bémol, hein, surtout au sujet de Radiohead, hein, qui est un groupe qui, contrairement à Nine Inch Nails, est un groupe qui est maintenant, on peut le dire, grand public, hein, qui a connu plusieurs succès, qui a vendu des tonnes et des tonnes de disques sur une major, et qui donc financièrement n'a peut-être plus à s'en faire beaucoup, contrairement à Nine Inch Nails, qui n'a jamais été vraiment un groupe qui a beaucoup vendu et qui a eu des tubes, hein, c'est-à-dire des singles et qui sont sortis et qui sont rentrés dans les charts.
Hein. Oui, mais Trent Reznor a fait remarquer qu'il gagnait beaucoup plus en faisant les concerts
pour lui c'est nettement plus légitime que de la part de Radiohead, hein, qui peut se permettre le luxe, on peut dire, hein, de sortir un album comme ça et de le donner, on va dire, aux fans qui attendaient depuis 2 ans, 3 ans le nouvel album de Radiohead.
En tout cas, ça va faire des illustrations pour tous les jeux qui sont disponibles gratuitement et tout ça. Donc peut-être qu'il y a plein de choses encore qui vont évoluer. Et ça, c'est en tout cas plus intéressant. Vous pouvez le télécharger sur le site de Nine Inch Nails, nin.com. Le double CD sort le 8 avril. Moi et Thomas, on a beaucoup souffert pour essayer de le télécharger. Ça a été un peu encombré.
Ouais, impossible de dézipper le fichier. Il va falloir essayer.
Mais je te le filerai. D'accord. Parce que j'ai le droit. Ouais. Techniquement, j'ai le droit.
Ok.
Donc il y a pas de souci. Donc voilà. En tout cas, c'est vraiment l'album est très noir, très dépressif. Il y a d'autres choses à
changer.
Il y a plein de choses à découvrir. Vous allez sur Creative Commons. Vous tapez Creative Commons sur le net, sur Yahoo, ou Google. D'entrée, vous tombez sur le site. Voire des fois, ils vous donnent carrément plein d'œuvres comme ça en Creative Commons. Ils vous disent, ben voilà, il y a ça à découvrir, ça à découvrir. Il y a des grands jeux, des découvertes comme ça. Il y a des softs qui télécharge pour vous de la musique, et c'est à vous de noter, vous dites ben ça j'aime pas, et en fonction de vos goûts va orienter ce que vous avez téléchargé, et du coup ben c'est un peu la radio à la demande, et il y aura plus FMR, il y aura plus le supplément au week-end, alors
bon, on fera autre chose, pas grave.
Voilà. Midi 30 sur la poubelle des radios, une partie magazine plutôt très longue aujourd'hui. Et donc, eh ben coupé par la pub.
Allô FMR, allô les studios.
Allô le bikini, c'est bon là, vous êtes en direct.
Nous sommes à la première de la Taratatouille, le mardi 1er avril au bikini.
Et qu'est-ce qu'il y a de bon dans cette conserve Taratatouille?
Des morceaux de choix de Tchèque avec Ushish Medoma.
À la sauce parisienne du Stanley Kubi.
Et pour assaisonner le tout, du rectus de Perpignan.
C'est à 20h.
Ça ne coûte que 6€. Et c'est retransmis en direct du bikini sur FMR et Optimi. Exigez les concerts Taratatouille.
C'est bon.
Ça change des nouilles.
Le jeu de mots était mieux que la prise de son. C'est quand ça veut.
C'est quand ça veut.
On va passer à autre chose. Littéralement autre chose avec de la bande dessinée.
Ouais.
Mignonne. Et toute kawaii.
Kawaii.
Avec plein de i à la fin. Mariole au scénario, Mini Kim et Pop au dessin, ça s'appelle Alta Donna. C'est une trilogie. Le premier tome, donc, s'appelle Changement de Lune, est sorti chez Dargo pour le festival d'Angoulême. Et c'est du format 5, souple et tout ça, donc ça tient bien dans la poche. Et c'est l'histoire surtout de Nola. Nola est une jeune collégienne qui a une constance remarquée de ses professeurs. Sa proportion arrivait à la bourre et pour cause de... Je ne me suis pas réveillé ce matin, pardon, désolé. Et du coup, pas franchement retenir ses leçons. Altadonna est une petite ville portuaire baignée de soleil où les cigales donnent plus envie d'aller aux champs plutôt qu'en cours. Mais Nola n'a pas le choix que d'y aller afin d'être adulte. Car ce n'est pas sa mère qui la traite plus comme une copine que comme une fille qui arrive à la motiver à arriver à l'heure le matin au collège. On arrive dans le collège de Nola de nouveau. Damiano et Inès. Au départ, Nola n'a Dieu que pour le beau Damiano. Mais elle découvre assez vite que ce garçon et sa supposée sœur Inès semblent avoir une drôle de vie. Qui sont-ils exactement et que sont-ils venus faire à Altadonna? Voilà trop de mystères pour que Nola n'essaie pas de les résoudre. Juste pour pimenter un peu sa vie. À moins que finalement, il y a bien des choses qui se passent à Altadonna, mais que Nola n'y prête pas attention. C'est sucré, c'est coloré à en donner le diabète juvénile, et forcément, puisque la cible est plutôt adolescente. Comme le graphisme est très rond, tout en s'inspirant énormément de l'animation, les couleurs sont vraiment des couleurs pastel. Il n'y a pas vraiment de limitation sèche dans le dessin. Et de ce côté-là, il y a un bonus qui va faire plaisir aux filles, avec beaucoup de i derrière. Il y a une page, non pas de stickers, Chantal, mais de décalco. La décalcomanie. Voilà. Je serais surpris si ce petit bouquin n'a pas son petit succès. C'est taillé pour les ados, pour les jeunes ados, pour les filles. C'est un cadeau qui fera vraiment plaisir à votre cousin, à votre cousine, voire pour mon âge plutôt, nos filleules et nos petites nièces. Altadonna, le premier tome sur 3 s'appelle Changement de Lune. C'est de Mariol, Mini Kim et Pop chez Dargo. Thomas a sûrement des choses à dire.
Ben moi je suis en train de feuilleter et c'est vrai que dans les coulisses d'Altadonna à la fin ça vaut son pesant de cacahuètes.
C'est assez rigolo.
C'est
ouais.
Très mignon, très rigolo et on voit les trois auteurs en SD super déformés par dessus les décors pour expliquer comment ils travaillent, etc. C'est assez mimi.
Ouais, c'est d'ailleurs très très inspiré de l'animation japonaise dans pas mal de gimmicks et tout ça. Après pas franchement du manga parce que c'est de la couleur et c'est un découpage européen. En tout cas, c'est très dynamique, très très frais.
En tout cas, d'un point de vue personnel, je me devais de dédier cette chronique à Pop, qui était ma collègue au Beaux-Arts, voilà.
À Toulouse. Sauf que tu n'as pas le droit de dire en tout cas juste après une phrase que j'ai commencé par en tout cas. Je te le rappelle.
Ah bon ?
Ah oui.
Merde.
On réécoutera l'enregistrement.
En tout cas.
C'est un jeu d'arcade, la souris de l'ordi, c'est une horreur. On va passer un petit peu à autre chose avec une BD que l'on a chroniquée l'an dernier. Non, pas l'an dernier, j'ai dit une bêtise, on l'a chroniquée en décembre 2007. Ça s'appelle Solanin. Le premier tome donc de Inio Asano nous avait beaucoup beaucoup plu. Le deuxième vient d'arriver dans la collection Made in chez Kana. Non, il vient pas d'arriver en fait, il est sorti depuis 15 jours, 3 semaines. Taneda était le personnage principal du premier tome, puisque c'était un jeune garçon qui, avec sa copine, ils se sont dit, bon, il y en a marre de bosser comme des fritters. Oui, parce que ils sont japonais, ils sont tokyoïtes, ils sont jeunes. Et au Japon, soit pendant ton université, t'as déjà trouvé où tu vas bosser en sortant de l'université. En général, l'Arvoie Royale, c'est les très grosses boîtes où tu ne vas pas sortir, tu vas bosser toute ta vie, et des fois toujours au même poste. Soit ben tu fais des petits boulots totalement précaires qui paient pas des masses dont pas grand monde veut, et dans ce cas-là ben tu es un fritter, c'est-à-dire que tu fais des abeto, des petits boulots, abert
De l'allemand Arbeit. Et Fritter, c'est...
Arbeit.
Arbeit. Danke. Et...
Bitte.
Et derrière, ben, Fritter, ça veut dire, ben, tu es libre. Oui, ben, tu vas te faire embaucher le matin sur les quais à décharger les caisses, des trucs comme ça, ou à balayer des cours, des trucs... des machins, voilà, que tu fais des petits boulots au cours de ta vie. Et eux, ben, ils ont Taneda et donc sa copine Meiko, ils avaient dit, ben, Meiko, elle arrête d'être office lady, d'être une secrétaire au bureau qui ne fait qu'apporter le thé, et non, et Taneda, il arrête un peu ses fretteurs, et ben, ils vont vivre vraiment leur plaisir, celle de la musique. Taneda s'est tué à la fin du tout premier album d'un accident de mobylette. C'est la toute dernière case. C'est là où Inio Asano nous avait vraiment foutu un choc. C'est-à-dire, l'histoire, ouais, elle était plaisante et tout ça. Et puis à la fin, bam, on se prend ça. Oh merde. Il tue son personnage. Et Meiko, sa petite amie, eh ben, elle passe par des moments difficiles dans l'appartement qu'ils occupaient tous les deux. Une dépression latente dont elle va sortir en proposant aux deux autres membres du groupe de reprendre la place de Taneda et de jouer, elle, dans un groupe rock. Sauf que Meiko, bah, elle a jamais chanté et elle sait à peine tenir une guitare. Oui, c'est vrai qu'elle a rencontré Taneda au club de musique, mais la gratte de Rémi Fassol et Jeux Interdits, pas très loin, quoi. Pourtant, l'émotion et la flamme de Taneda vont vraiment passer en elle. Et elle veut surtout avoir le talent de son feu fiancé pour perpétuer sa mémoire, vivre ses rêves, chanter ses chansons. Et surtout, Solanine, sa dernière chanson. L'histoire est fine, délicate, belle, et n'a rien à voir avec les deux autres œuvres traduites de Inio Asano. Un monde formidable et le quartier de la lumière, qui était plus le premier une histoire de gangster, le deuxième un polar très très noir. Par contre, il faut reconnaître que son trait délicat, précis, révèle toute son émotion sur ce genre de scénario. Et les dessins de scènes de concert arrivent à faire passer une émotion sans une seule... bulle, une seule onomatopée, il n'y a rien, il y a juste du dessin, on a l'impression d'avoir vraiment justement des photos de concert, et là-dessus c'est vraiment bluffant, on reste le bouquin vous en reste dans les mains finalement, parce que ben, la mélancolie du deuxième tome est hachée, heureusement, avec les flashbacks, ce qui donne un rythme là où on aurait pu s'ennuyer ferme, et finalement on comprend beaucoup mieux cette génération japonaise en rupture avec la société de la réussite à tout prix. Solanine, le deuxième tome donc de Inio Asano, est sorti dans la collection Made in chez Kana, et c'est un coup de cœur. Voilà. Chacun le sien. Et il n'y aura pas de troisième BD, donc pas de coup de cœur pour du sport. À moins qu'il ait la revue de presse tout à l'heure.
Oui.
Maintenant, ladies and gentlemen, le nouveau clip de Just Ice fait justice au babillard et il est monstrueux. Mais on va parler, non pas de cinéma, mais de DVD.
Go!
Bam, bam. La chronique DVD vous est présentée en 16/9 anamorphique mono sur onde par Thomas. Alors Thomas, si je me trompe, tu vas parler de Ghost in the Shell?
Non.
Non. Ghostbuster?
Non. Tu non, brûles.
C'est pourtant c'est Ghostbuster la trilogie, non?
Non,
c'est
non,
pas
non,
Ghost?
Non plus. C'est Ghost. Ghost, hein, tu y es presque. C'est Chinese Ghost Story. Et c'est marrant parce que tu m'as pas mis le jingle film asiatique, tiens, aujourd'hui.
Bah non, sinon ça déflorait l'intro.
D'accord. Bon, derrière la bande-son, c'est du... était une fois en Chine, hein, donc voilà. La trilogie Histoire de fantômes chinois, réalisée par Chin Siu Tung, avec la magnifique Joey Wong, Leslie Cheung,
wow,
qui n'est plus, et Tony Leung Chiu Wai. Alors, un jeune lettré passe la nuit dans un temple hanté par des succubes, mais l'une des succubes tombe amoureuse du héros. Mais elle est persécutée par son maître et sa sœur maléfique, ainsi que par un moine bouddhiste très puissant. Ça, c'est le 1. Le 2. Des années plus tard, le lettré n'a pas oublié le spectre et rencontre une jeune fille ressemblant trait pour trait à la succube qu'il avait libérée du joug du terrible Lao Lao. Celle-ci se bat pour que l'on donne une chance à son vieux père captif de prouver qu'il n'a pas comploté contre l'empereur, mais l'envoyé de l'empereur est un être vil, se transformant en faux Bouddha cosmique. Dans le 3,
oui, immense, immense voilà, d'ailleurs.
Dans le 3, 100 ans plus tard, un jeune moine passe la nuit avec son maître au temple Lanzhou, théâtre des aventures précédentes. Il rencontre la succube Lotus, sosie de l'autre succube. Il tombe amoureux, elle aussi est persécutée par sa sœur Papillon aux ongles étirables et le terrible Lao Lao toujours vivant. Avec l'aide d'un moine taoïste, ils vont tenter de détruire le mal incarné. Et mais quid de la gentille succube ? Voilà, donc vous aurez compris, c'est... pas du grand n'importe quoi, mais
presque
une très 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 libre adaptation d'une nouvelle d'un très célèbre écrivain chinois, qui d'ailleurs est reproduite en intégralité dans le livret qui accompagne le pack, superbe pack DVD de la trilogie édité chez
HK.
Ah bon,
il y a le roman et tout ?
Il y a, un roman, c'est quand même une nouvelle, donc il est imprimé sur du papier arcole sur un somptueux livret qui raconte les filmos, une intervention du compositeur qui racontait comment c'était de travailler avec Soyark, hein, n'est-ce pas?
Il est chiant. Ouais, alors ouais. Qu'est-ce qu'il est bon, le con.
Ben c'est ça en fait. Il disait bon, Soyark, il a un gros défaut, c'est qu'il est doué partout, donc il peut mettre son grain de sel partout. C'est ça qui est chiant.
Ah, quoi, faire de la BD? Ouais, y a pas de problème.
Par exemple, il raconte pour la bande son, en fait, j'avais fait appel au joueur de sitar le plus connu en Chine populaire, donc il est venu faire sa partition nickel et tout, et puis à Soyark qui arrive pour l'enregistrement et dit ah ben non ça va pas, tiens je prends mon synthé, je vais mettre des notes de basse par dessus. la trilogie c'est assez emblématique de la nouvelle vague hongkongaise, l'âge d'argent du cinéma hongkongais du milieu des années 80, qui avait été en partie amorcé par Soyark avec sa production la Film Workshop, hein, avec ta da 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 avec les étoiles, hein, qui était tout magique quand on regardait ça. Oh de la fin des années, au milieu des années 80, début des années 90.
Ouais, c'est la deuxième partie des années 80, en fait.
Voilà.
Et en fait, c'est le renouveau, hein, du cinéma de Hong Kong en Occident, hein, parce que la première partie, c'était dans les années 70.
La Shaw Brothers
et les Bruce Lee et consorts. Et la grosse claque, la grosse découverte, hein, ça a été justement le premier Histoire de fantôme chinois. Alors, c'était en 87, en 88, me semble-t-il, avant les John Woo.
Non, c'était après, parce que John Woo, ça a été en 85.
Mais je parle des
pour l'Occident.
Ouais, pour l'Occident.
Oui, tout à fait.
Pour l'Occident,
oui. Hein. Voilà. Et c'est vrai qu'à l'époque, conjointement, il y a eu tous les genres qui ont explosé avec le syndicat du crime de John Woo. Il y a eu d'abord Zhou, les guerriers de la montagne magique.
Ça, c'était en 82, oui.
Qui a été un four monstrueux en Chine et en Hong Kong. Et justement, donc.
Qui pourtant n'était pas. Il y a eu des moyens. C'est pour ça que tu peux dire que c'est un four.
Il
hein.
y a eu des moyens.
Pour l'époque,
mais
c'était énorme.
C'est quand même un film qui a vachement vieilli et qui. Enfin, à mon sens, qui supporte pas trop la comparaison avec Histoire de fantômes chinois. Soyark. Donc pour lancer une grande trilogie, il avait besoin des deux stars maison, hein, puisque c'était les stars qui avaient des contrats avec des maisons de production. Donc ces stars à lui, c'était justement Joey Wong et Leslie Cheung. Leslie Cheung qui a fait la carrière que lançait ensuite, qui a tourné avec tous les plus grands, John Woo, tous les Soyark, qui a été aussi connu en Occident pour avoir beaucoup travaillé avec Wong Kar-wai également. Soyark, il était loin d'être échaudé par l'échec de Zhou, les gars de la montagne magique. Il s'était adjoint la collaboration d'un collaborateur justement de ILM et de George Lucas, qui était John Gistra, pour faire les effets spéciaux. Qui franchement sont assez ridicules aujourd'hui, mais qui étaient assez rigolos.
Quand même, quand ça circule entre les arbres avec la longue cape.
Mais ça c'est pas les effets spéciaux de John Dykstra. Les effets spéciaux de John Dykstra, ce sont les effets numériques, hein.
Ouais.
Avec les trucs lumineux et les épées qui deviennent une à la fin dans un somptueux arc-en-ciel violet lumineux. Alors, tu vois ça c'est pas très joli. Alors que quand tu dis les capes courant d'air entre les arbres, ça c'est les effets physiques. avec des câbles à la chinoise, mais je vais y revenir. Justement, c'est tu parlais du côté farfelu de Zou, les guerriers de la montagne magique, c'était des inventivités comme par exemple un mec qui se prend un shoot et il va faire quitter la montagne parce qu'il va rebondir sur les parois. Donc ça, faut quand même se préparer à ça, hein, avant de voir Zou, les guerriers de la montagne magique. Chung Soo Tung, c'est le réalisateur des trois histoires de fantômes chinois qui a été est aussi connu.
C'est une rareté d'ailleurs. Donc le même réalisateur a fait les trois.
Oui, du sport qui m'avait prêté il y a quelque temps le HK Magazine spécial Seuil Arc va comprendre la blague, puisque il y avait Laurent Courtiot et Julien Carbon qui sont deux collaborateurs de HK Magazine qui sont allés travailler là-bas et qui ont fait un portrait de Seuil Arc parce qu'ils trouvaient que c'était un réalisateur qui valait le coup et puis c'était leur gros dieu, donc ils ont fait un portrait de Seuil Arc qui dans la même phrase disait c'était un gars psychotimique, on pouvait le détester, l'adorer dans la même phrase, dans la même journée. Et si vous voulez faire rigoler l'équipe de production de Histoire de Fantômes Chinois, vous leur maintenez que c'est Chin Soo Tung qui a réalisé les trois films. Seuil Arc est quand même réputé pour être un tyran diabolique.
Il aurait fait son Luc Besson.
La totale, hein, la totale.
Lui, puissance 1000 hein. À lui, oui. Voilà. Parce que
Besson et Nounours à côté.
quand même, Chin Soo Tung, il faut quand même lui rendre à César ce qui lui appartient, parce que c'est quand même un gars qui était assez doué, qui était aussi connu pour ses chorégraphies, qui plus récemment, c'est lui qui a chorégraphié tous les films de Zhang Yimou, qui voulait se mettre au film avec des câbles et de Liu Bucciapian. Il se dit bon, si Ang Lee a ressuscité le genre, pourquoi pas moi, hein. Donc tous les chorés de héros de du Secret des Poignards Volants et de la Cité Interdite, c'est Chin Soo Tung, malgré son âge. Et son style, c'est plutôt comme tu en parlais tout à l'heure, Xavier, c'est les drapés avec courant d'air, les gens qui prennent des poses de danseurs pour aller volter dans les airs dans la nuit. Bon, c'est très joli, hein.
Et pas mal d'humour, parce que dans le 3, il y a une scène monstrueuse où ils vont dans le village, où ils vont au marché. Il y en a un qui gueule Shuriken, Shuriken, Shuriken pour un mètre de diamètre.
Oui.
Il y a plein de trucs.
Ah, mais il y a plein de blagues à la con, hein. Il y a
Gigax.
Il y a un moine pour ne pas regarder les effets qui pourraient le rendre aveugle. Il y a ses lobes d'oreilles qui s'allongent pour lui masquer les yeux. Alors c'est une scène qui est indescriptible, il faut le voir. Plein de trucs comme ça. Le style, Chin Soo Tung, il faut savoir que un peu avant était sorti Evil Dead de Sam Raimi, donc il a gardé le travelling au ras du sol avec les gros ventilateurs pour faire voler les feuilles mortes.
C'est, l'arbre est inquiétant comme ça. Hein.
L'arbre, les plans de travers, tout filmé au grand angle pour avoir des proportions de fou, mais juste comme ça à la radio,
c'est irracontable, mais on est plongé dedans. Alors c'est vrai que sur grand écran ça pète,
voilà,
mais à mon avis devant un téléviseur on se reprend une claque.
Donc les actrices qui incarnent les succubes, bon, il y a des manches qui n'en finissent plus, les toges, les habits super beaux, donc évidemment la lumière qu'il faut, le tissu qu'il faut. C'est Christophe Gans qui disait que les Chinois étaient très peu doués pour avoir des films qui soient pas trop kitsch et qui vieillissent pas trop mal pour les polars, mais par contre ils étaient très doué pour tout ce qui était Wu Japan, film de chevalerie, là, il n'y avait pas de problème. Donc, évidemment, tout ce qu'il faut pour mettre en valeur les costumes et les chorégraphies. Il faut savoir aussi que selon l'intention de la scène, l'état de la psychologie de la nana, la couleur de la toche pouvait changer d'une scène à l'autre. Puisqu'à un moment donné, la nana perd ses pouvoirs parce qu'elle est entourée de chapelets pour éloigner les esprits. Comme c'est un esprit, ben elle commence à se désaturer, donc la robe devient blanche. Elle est complètement démaquillée et tout. C'est vraiment ça qui sont très 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 efficaces.
Il y a vraiment d'excellentes idées. C'est un film de ce côté-là qui est vraiment à découvrir pour les mises en scène.
Voilà, donc il y a du bon et du moins bon dans les effets. Donc les effets spéciaux archi à chier. Donc tu as des épées en 3D, des costumes en 3D qui virevolent dans les airs à la fin du 3, un Tony Leung changé en boudin en or qui vole dans les airs. Alors là, tu pleures tellement c'est nul. Par contre, t'as les effets physiques, on disait, bon, c'est des trucs faits avec 3 francs 6 sous. Ils ont monopolisé des lances à incendie pour avoir des murs d'eau. Mise en scène à la Hong Kongaise. Donc tu prends ta claque. T'as des pétards, des animations image par image à la Ray Harryhausen pour des spectres qui sont vraiment en image par image. Alors tu dis, mais qu'est-ce que ça fout là? C'est le seul moment d'ailleurs dans la trilogie où tu vois de système d'animation. Tu as les chorés avec des câbles, tu as des monstres en latex, Bon, il faut le voir aussi pour le croire.
Je suis échappé des studios de Lato.
Voilà, c'est exactement ça. En plus, avec du comique à la cantonée, mais vas-y, à fond les manettes. T'as le mec, où sont mes habits? Alors, t'as les habits qui sont sur la gueule du monstre en latex derrière. Oh, merci. Alors, le mec, moi, prend trois plombes pour se rendre compte que c'était un monstre. Hein. Bon, voilà.
Pour achever quand même cette chronique, je suis obligé de le faire. Pouillez mon ami!
Oui, Paye Palomi. Voilà, c'était les incantations bouddhistes.
Avec une scène à hurler de rire où ils sont tous figés, même le démon qui est derrière.
Ah oui, ça c'est dans le 2, ça c'est un grand moment de comédie. Donc dans les deux premiers, le premier c'est un authentique chef-d'œuvre, hein, indémonable, qui est même aujourd'hui c'est un festival de trouvailles d'effets spéciaux à montrer dans toutes les écoles d'effets spéciaux, de maquillage, de mise en scène. C'est vraiment du indémonable, insurpassable, chef-d'œuvre authentique. Le 2 c'est une suite directe du 1 avec les mêmes acteurs. Leslie Cheung. Le 3, c'est un remake du 1. Leslie Cheung passe le témoin à Tony Leung Chiu-Wai. C'est marrant de le voir à cette époque-là, avec cet âge-là, surtout quand on le connaît avec les productions d'Ang Lee et de Wong Kar-wai aujourd'hui.
Ouais, film sérieux, quoi.
Voilà. Bon, Tony Leung, il est un peu palo hein, par rapport à Leslie Cheung. C'est vrai, mais bon, ça va. Il est quand même, il est loin de démériter. Le packaging du DVD, j'en parlais un peu tout à l'heure. Donc, pas trop de bonus, mais ils ont mis tout le paquet dans le packaging. C'est le cas de le dire d'ailleurs. Mais par contre, on a une interview, les sempiternelles bandes annonces d'HK, la HK Collection. Il y a une interview en trois parties de James Wong, qui était le compositeur de la trilogie, qui raconte comment c'était de bosser avec Soyark, comment c'était. Il parle de son. De sa façon de fonctionner, très 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 intéressant, de la manière de travailler avec les acteurs qui font aussi des chansons du film, hein. Il faut savoir que Leslie Cheung était aussi connu pour être chanteur de pop.
Il est plus connu là-bas comme étant chanteur de pop que comme acteur.
Ouais. Et d'ailleurs, il a, faut révéler quand même son destin tragique, puisqu'il s'est défenestré pendant la période du SRAS, puisqu'il avait des démêlés avec la princesse Kanda, il avait été obligé, à un moment donné, de révéler son homosexualité. Joey Wong, la lumineuse actrice qui joue la succube dans les trois films, a arrêté sa carrière pour protester contre la mainmise des triades sur l'industrie cinéma. Voilà, des dessins assez peu enviables. Alors, je reviens au packaging, donc l'interview du compositeur, et il y a aussi l'interview du chorégraphe Yuen Boon sur le troisième volet. Il faut savoir que le troisième film existe en deux DVD sur le pack, version internationale et version longue, de plusieurs dizaines de minutes en plus. Il faut savoir que le compositeur a été interviewé en 2004, l'année de sa mort d'ailleurs, donc c'est assez dommage, il est mort à 64 ans. Donc c'est un pack de la trilogie Histoire de fantômes chinois qu'il faut se procurer d'urgence pour tous les amateurs de cinéma hongkongais, de cinéma de fantômes, etc., avec les chorégraphies. Si vous voulez de la baston kung-fu, franchement c'est plus orienté effets spéciaux et plus romance, mais c'est quand même un truc à acheter. C'est assez cher, hein, à peu près 50 €. Mais par contre, quand vous voyez le packaging et le revêtement en soie rouge brillante, tu dis ah ouais, d'accord, ouais, non, on va le prendre. Voilà. Donc, la trilogie Histoire de fantômes chinois de Ching Su Tung.
Donc, en coffret édition limitée.
Édition limitée et numérotée.
Et numérotée. Du sport, il est midi 55. Alors, je sais pas. Oui, pardon.
Vas-y.
Oui. T'as un truc, d'accord. Bon, on va mettre dans ce cas-là du Conan. C'était juste pour savoir si toi t'avais beaucoup de trucs ou non.
Comme d'habitude.
D'accord.
Bon, beaucoup de trucs alors.
L'hymne officiel de la Californie. We'll be right back. crois que je me suis trompé, c'était pas Conan.
Non, c'était Total Recall.
Ah merde.
fais pas comme si tu savais pas. Donc il s'agit maintenant de Pathfinder. Ouais, un film de Marcus Nippel avec Carl Urban, ouais, Clancy Brown, ouais, disponible en DVD chez la Fox.
Ouais.
Avant Christophe Colomb et les Vikings débarquent en Amérique du Nord, pillent et violent. Il laisse sur ses terres un enfant des leurs, voilà comme d'hab, hein. Recueilli par les autochtones, il laisse un enfant. Des années plus tard, les envahisseurs reviennent, repillent et reviolent. Toujours bien, hein.
C'est sympa comme coin, alors.
Sauf que le gamin, il a grandi et il va leur latter la gueule. Mais grave, grave, grave. Bon, pas lui tout seul, hein, mais quand même, il va en faire pas mal de chemin. Crom, ou plutôt Parodin. Alors vous, oui, vous, amateurs de baston avec des épées lourdes, de campagnes barbares, de guerriers musclés, chevelus se tapant sur la tronche avec du métal et avec des voix d'outre-tombe, vêtus de peau de bête et de casque à cornes dans des paysages enneigés, Pathfinder est fait pour vous. Voilà, vous dites baston, on va voir un bon DVD qui meule, et ben voilà, hein, il faut pas aller trop chercher midi à 14h, le film... évidemment, c'est pas un chef-d'œuvre. Hein. Si vous attendez à du Conan, faudra repasser. Au niveau du souffle, au niveau de l'analogie entre les plusieurs scènes, les deux films se valent. On peut pas s'empêcher de les comparer puisque jouent sur le même registre. Il faut dire que par rapport à Conan, le film Pathfinder, eh ben, il vaut pas trop tripette quand même. Mais il faudrait peut-être plus le rapprocher d'un autre film plus récent. Qui a rien à voir avec l'heroic fantasy et les barbares, mais qui s'appelle Apocalypto de Mel Gibson, où ça racontait aussi
des Indiens qui se font tabasser la gueule.
Et ben la civilisation amérindienne qui va se faire tabasser la gueule par les conquistadors, sauf que ça se passe un peu plus après.
Voilà.
Ça se passe au même endroit, mais par contre
endroit, les Vikings. Les Vikings, ils étaient en Terre Neuve.
Oui, mais c'était le continent nord-américain quand même. Oui, bon, c'est la même zone, hein.
Ah, oui. Il y a 4000 km minimum de différence.
Ah, il y a 5000 km entre New York et Los Angeles.
Et donc, ça raconte, ben voilà, un peuple plus avancé qui s'en prend un autre en le rendant en l'esclavage un guerrier de ce peuple réduit en esclavage va se rebeller pour latter la gueule aux autres au cours d'un voyage spirituel où il va quand même démembrer sec.
Voilà, ouais, c'est un voyage spirituel, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Je fais partie des démembreurs anonymes, et pourtant.
Donc, si vous vous intéressez un peu au film de genre, vous saurez que de toute façon, Pathfinder traîne une sale réputation derrière lui, puisqu'il était sorti dans à peine une dizaine de salles dans un été caniculeux.
Transformerisé, je crois.
Ouais, c'était avant, c'était il y a 2 ans ou 3 ans déjà. Non, 2 ans, il était sorti Pathfinder dans l'indifférence générale. Mais il a été sorti à la va-vite parce qu'il faut savoir que la Fox était complètement désolidarisée du projet et qu'ils ont ressorti à la va-vite parce qu'il y a un film qui s'appelle 300 qui était sorti entre temps et ils se sont dit merde, il faut surfer sur la vague 300.
Oh donc... merde, ça va faire du succès, putain, merde. Ah, c'est donc... qui en plus là qui a écrit le scénario? Frank Miller. Frank Miller, on l'a pas foutu à la porte là avec ses projets débiles là, avec Batman.
Et ouais, ouais. D'ailleurs, il est en train de tourner l'adaptation du Spirit, tiens, Et donc, Pathfinder est sorti donc à la va-vite. Il dormait dans les cartons de la Fox, il était prêt depuis belle lurette. Le film est sorti évidemment mutilé contre l'avis du réalisateur. Donc, il a la réputation de grand film malade comme un autre film avec des Vikings de John McTiernan, le 13e guerrier.
13e guerrier, ouais.
Ouais. Baston.
À fond.
Voilà, Pathfinder, il vaut ce qu'il vaut. Hein. Bon, Carl Urban dans le rôle principal. Bon, on aime bien Carl Urban, hein, Seigneur des Anneaux, Jason Doom. Bourne, Doom, ouais, voilà. Mais d'ailleurs, Doom, il le sauvait presque de l'ennui total, hein, ça fait. Mais il faut dire que, voilà, on va encore le comparer à Schwartzy, mais on est bien obligé, il vaut pas de tripette quand même, hein. On a un peu de mal aussi à se passionner pour l'histoire. Il y a très peu de dialogues. Les seuls dialogues, c'est des borboriques ou des dialogues qu'on comprend pas, des Indiens, genre, il faut que tu trouves le lama caché dans ton destin.
D'accord, j'y vais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une hache.
Donc c'est de la castagne. Bon, par contre, ce qui reste du film, c'est quand même les paysages, mais de tuerie. Ils ont tourné en hiver avec de la vraie neige et tout, donc les mecs ils sont en pagne avec des gros biscottos bandés et tout. Alors tu dis,
la
bon,
fumée, c'est pas des particules en 3D.
De, voilà, de la fumée, des mecs qui sont dans un lac gelé, tu vois que c'est vrai, les vrais acteurs qui sont là-dedans.
Et quand les jeunes nous y.
Voilà, donc c'est qui dit film.
En situation. Quoi.
En situation, film moderne, donc univers graphique vachement travaillé en post-production aussi, mais sans trop dénaturer les prises de vue réelles, donc ça va, c'est sympa. Et puis c'est quand même un film de bourrage de tronche quand même, hein, avec des gros vikings. Clancy Brown, seul donne en mille en viking, hein,
normal.
Chef des vikings. Bon, la voix qu'il a, faut le voir en VO, hein, parce que bon, même avec nos effets à nous, on pourra jamais égaler sa voix.
C'est une évidence.
Pathfinder, bah, sympathique petit film de bastonnage, de tranches avec des grosses épées. Donc, un film de Marcus Nispel qui avait fait aussi Massacre à la tronçonneuse, je crois, avant. Ou un autre remake de film. Et, je le confonds avec Zack Snyder, je sais plus lequel avait commencé sa carrière en faisant un gros remake de film de genre avant. En tout cas, c'est de Marcus Nispel avec Carl Urban et Clancy Brown. Et c'est disponible en petit DVD en ce moment, voilà, sympa. Et puis vous pouvez le regarder, c'est quand même. Ça se laisse voir quand même. Hein.
13h, 4 minutes et 20 secondes, mon dieu, mais que se passe-t-il ?
L'histoire que vous allez voir repose sur des événements réels. Les noms ont été changés afin de protéger les personnes innocentes.
D'accord, on a des petits problèmes de connexion, là aussi. Du sport.
Alors, tout d'abord, tiens, tu mettras le 22, là. Pas de suite.
Dans la série, on dit pas ce que c'est comme morceau.
Oh, mais c'est hyper connu. Hein. D'accord. C'est un générique de série, il n'y a pas de problème.
Ok.
Tout d'abord, vite fait, petite revue de presse avec la nouvelle sortie de Mad Movie, le numéro de mars, où on parle. Il y a un dossier sur les remakes, justement, quoi. Putain, on en parlait juste avant.
Donc, fais-moi mal.
À propos des remakes déjà faits, ceux réussis, ceux qui sont pas réussis, hein, Fog, Halloween, Psycho, Hellraiser, il y a également La Colline à des yeux, et le remake en devenir de Funny Games, de Michael Haneke, qui retourne son film aux États-Unis. Et donc, il faut voir ce que ça va donner. Il y a les rubriques habituelles sur les films qui vont sortir, et il y a surtout, eh bien, le palmarès du dernier festival du film fantastique de Gérard Jarmé,
oui,
qui paraît-il est la meilleure des 15 éditions, hein, au niveau des films montrés. Bon, c'est eux qui le disent, hein, donc bon, ben, on peut les croire sur parole, pratiquement. Avec les films sortis, alors là, je te dis pas, tu la liras, hein, de toute façon, hein, la critique sur Jumper, bon, tant pis. Hein. Et j'apprends qu'il y a la ressortie en salle de ce monument de Mel Brooks qui est Frankenstein Junior.
Ah, je croyais que c'était Terminator. Non, c'était non, l'autre
non,
page, d'accord.
Non, ça c'est les coffrets. Ça.
Terminator, un film de Mel Brooks.
Ouais, les deux trilogies, quoi. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a encore de vachement bien que j'ai repéré? Le réalisateur fantastique, sa carrière, c'est Robert Wise, donc c'est pas n'importe qui. Et du côté des nanas dévêtues, tout à la fin, ben, c'est une bonne sœur.
Non.
Zoé Lunt.
Du sport. Oui. J'ai pas le droit de foutre le macaron moins 16 à cette heure-ci.
Ah bah si.
Non, mais on est écouté par le CSA. Tu
c'est la journée de la femme, mon gars.
Le Pygmalion des grosses poitrines.
John C. Harris et plein d'autres choses.
Mais si enfin, raison, ce con, c'est vraiment la journée de la femme.
Oui, c'est la journée de la femme.
Enfin, c'est demain. C'est demain.
Tu comprendras un petit peu plus tard. Du côté des sorties Panini Comics, parlons un petit peu de BD avec du côté de chez Marvel, le Marvel Heroes. Et enfin, il arrive, le voilà, World War Hulk, il est là et il est pas content. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, les Illuminati, c'est-à-dire l'espèce de junte formée par professeur Xavier, il y a Namor, il y a Doctor Strange et puis il y en a encore deux autres mais je m'en souviens pas. Ils ont décidé que bon, ça suffisait quoi, et il y a pas que hein, eux c'est le noyau, c'est-à-dire ceux qui pensent et tout, et les autres qui agissent, hein, les autres super-héros, et ils ont décidé que Hulk, il y en avait marre, il foutait son bordel partout, il y en a marre de ses crises de rage et tout.
Bon, Banner, tu te calmes.
Ils le foutent dans un vaisseau spatial et ils l'envoie sur une planète. Manque de bol.
Il aime pas la destination, il se met en pétard.
Non. Manque de bol, il se plante dans les données pour l'envoyer sur une planète très très loin et tout. Et il atterrit sur une planète dont il devient le patron. Parce que bon, bah, la planète en plus s'appelle Kaira.
Je sais pas. Ça l'a foutu en rogue.
Ouais, non, et donc, il devient copain de la reine de la patronne de cette planète et tout. Et donc, une fois qu'il a acquis le pouvoir et tout, il décide de revenir sur Terre pour foutre le bordel parce que c'est pas normal. Faut pas déconner, quoi. Et ça commence vraiment super bien. Bon, on voit à peine Hulk dans la première partie, mais par contre, Miss Hulk est bien présente. Hein, et
Oui, pas mal, pas mal. Elle est poumonnée, ouais.
Elle est poumonnée, hein. Et,
jolie expression. Ouais.
Alors, non, mais on se demandait toujours pourquoi. C'est un thème récurrent chez Hulk. Hein. Pourquoi le fut.
Il se déchire jamais.
Il se déchire jamais. Mais là, pourquoi le haut, il se déchire jamais? Ah, zut. Il y a également.
On a fait des progrès dans la couture de boutons.
C'est,
hein.
C'est marrant parce que tu parles de Hulk, parce qu'il y avait la BD Ultimate, et c'était la seule façon de canaliser Hulk. Puisqu'il y avait une invasion d'extraterrestres avec des vaisseaux qui arrivaient, et donc il y a Thor qui leur mélate la gueule, mais c'est pas suffisant, donc il se fait pulvériser. Il y a Captain America, il est à terre et tout, et il y a Bruce Banner qui il l'énerve et tout, et puis pour le canaliser, il y a Captain America, il lui dit: tu vois le gars en haut là, il a dit que t'étais un gros PD.
Oh
non, faut pas le faire. Il y a également dans le nouveau Marvel Heroes, c'est le numéro 5, hein, il y a également la suite des puissants Vengeurs, hein, donc la nouvelle équipe des Vengeurs, dont le patron est une patronne, puisque c'est Miss Marvel. Et là, ça pète vraiment pour eux. Là, c'est très très chaud. Hein, il faut dire ce qui est. Il y a également Omega Flight, c'est-à-dire c'est un groupe de super-héros, mais version canadienne. C'est que des super-héros canadiens, mais c'est pas mal aussi avec le Sasquatch et tout. Le Sasquatch, moi j'aime bien. Ouais. Il est bien. Ah ouais, Sasquatch, il est super, quoi. Et il y a également chez Panini dans le numéro de mars de Astonishing X-Men, c'est-à-dire la licence de Joss Whedon,
wow,
et John Cassaday au dessin. Là, c'est pareil, c'est impeccable, super bien. Alors là, ils sont toujours chez les Krulls, quoi, et il va se passer quelque chose. Alors Scott Summers, tout d'abord, il se retrouve au pieu avec Kitty Pryde quand ils sont chez les Krulls. Alors c'est pas mal, c'est sympa et tout, hein, c'est joli. Il y a un petit peu de sexe. C'est pour ça, c'est pas tellement pour les enfants, hein, c'est plutôt pour les ados adultes, hein, qui sont déjà au courant de ce genre de choses et de beaucoup d'autres. Il y a également New Excalibur. Ça, c'est un groupe de super-héros en Angleterre. Hein. Il y a Captain Britain, il y a Onslaught qui s'est joint à eux. Et ce qui est assez rigolo... Onslaught, ouais.
Alors que c'est le gros méchant de base.
Ouais, mais il devient gentil, là. Là, il est gentil. Là. Ouais. D'accord. Mais bon, c'est pareil, hein, dans les Nouveaux Vengeurs, si tu veux. Il y a Ares. Il fait partie de l'équipe, quoi. Alors que bon, au départ, c'était un méchant, quoi. Mmh. Et là, bon, il fait partie des gentils. Et ce qui est vachement bien et tout, c'est que bon, comme c'est situé en Angleterre et tout, c'est plus ou moins la période actuelle. Et t'as carrément un plan, une image. Où est-ce que tu vois? Je l'ai montré à Thomas avant et tout, quoi.
Hein? Je m'en doutais pourquoi il est devenu gentil. Hein? Ça s'est assagi chez les supporters.
Ah ouais, Arsenal Stadium. Bah ouais, ils font une réunion à un moment, Onslaught et lui, je sais plus qui c'est, quoi. Et donc ils se réunissent dans l'ancien stade, puisque bon, maintenant c'est le nouveau stade, l'Emirates Stadium.
Hein,
donc l'ancien stade, il y a plus personne, donc ils peuvent s'en servir comme lieu de rendez-vous, quoi. C'est cool.
C'est marrant parce qu'il a été détruit en fait en vrai maintenant.
Ouais, non, mais bon. Hein,
bah attends, ouais, tout le monde disait l'ancien est le meilleur.
Non, mais c'est une Terre bis.
Non. La Terre bis, en fait, elle est dans Exile, qui est également dans le Astonishing X-Men, c'est-à-dire toutes ces terres alternatives dans lesquelles, les exilés, naviguent allègrement. Également X-Factor, qui commence à devenir intéressant. Il y avait plus ou moins des histoires, il y a 4 ou 5 numéros en arrière qui étaient pratiquement des one-shot, c'est-à-dire un début, une fin, mais on laisse les personnages en suspens et il ne se passe pas trop grand-chose, alors que là ils ont quand même une mission. Ils sont tous chopés par une agence gouvernementale qui les charge de traquer les mauvais mutants, ceux qui ont ingéré des substances un petit peu toxiques et qui foutent le bordel partout. Alors on veut bien qu'il y ait des mutants, on les a ghettoisés un petit peu dans des endroits spéciaux, mais il faut pas qu'ils sortent pour foutre le bordel partout. Alors vous allez les choper et vous allez les ramener, sinon on vous dégomme tout simplement. Voilà, ça c'est dans X-Factor, mais c'est toujours vachement bien, quoi. Voilà pour
c'est très politique, hein, finalement, parce que cette méthode de pensée, ça fait un peu pas... Je sais pas, des méthodes ultra-présidentielles. Ah merde, excusez-moi, j'avais oublié. On ne doit pas parler de politique aujourd'hui.
Scénaristiquement parlant, il y a toujours des allusions à des situations récentes ou des situations présentes. Hein. Il suffit de se rappeler de la grosse saga Civil War, de toute façon. Quoi,
énorme.
Voilà donc pour les BD. En parlant de télé à présent, alors on va faire pratiquement, au début, une petite série inédite pour commencer avec. Alors là, c'est le déferlement hein, en ce qui concerne cette série, parce que tout le monde aime le cul. Alors quand on parle de Californication, on se dit waouh, ça va être bon. Et c'est surtout le retour de David Duchovny. Qu'on avait perdu de vue pratiquement.
Ah bon, je pensais que c'était plutôt un album des Red Hot Chili Peppers.
Voilà, et bien figure-toi que comme ils sont tellement cons, Red Hot Chili Peppers, et que ils ont plus la gloire qu'ils connaissaient auparavant, les nanas, la coke et tout ça, et le pognon qui va avec, et bien, ils ont intenté un procès. Hein, ils ont intenté un procès donc à la chaîne qui diffuse Californication pour plagiat. Hein, parce que ils ont un album qui s'appelle, une chanson qui s'appelle Californication aussi. Pour montrer qu'ils sont vraiment très cons, quoi.
Ils sont américains, c'est tout. S'ils font pas américains. Un procès, ça veut dire qu'ils cèdent les droits. Et que donc n'importe qui peut le faire. C'est comme ça aux États-Unis. Ça justement que tout le monde a critiqué la société Moulinsart, comme quoi ils faisaient des procès à tout le monde sur la moindre petite parodie, la moindre usage d'une image de Tintin. C'est le mode de pensée, le mode de protection des droits d'auteur aux États-Unis et en Angleterre. Si tu fais pas un procès là-dessus, ça veut dire que tu cèdes tes droits.
En fait, Californication, avec David Duchovny. Non, mais il y en a partout, hein, tu vois. Dernier numéro de Technic Art, si tu prends le Télécable Magazine de cette semaine, Duchovny en couverture, Duchovny ici, Duchovny là. On se dit, c'est peut-être un petit peu gavant. C'est une série qui a été créée par Tom Capinos, qui avait déjà exercé ses talents sur la série Dawson, donc. Ça va, un mec qui bosse avec Kevin Williamson, on peut dire que c'est pas un mauvais, franchement. Les producteurs, David Duchovny, bien sûr, Stephen Hopkins pour le truc visuel, tu sais qui c'est Stephen Hopkins quand même, non?
Créateur de 24, entre autres, réalisateur de cinéma.
Voilà, cinéma aussi. Et Scott Wynant. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un auteur à succès. Qui vit à Los Angeles, à Venice Beach, s'il vous plaît, là où c'est super branchos, et qui a connu le succès avec un seul bouquin, mais un bouquin qui a marché du feu de Dieu. Et là, c'est la panne, c'est la page blanche. Et
tiens, ça me rappelle une BD que j'ai chroniquée il y a 2 semaines.
Et qu'est-ce qu'il fait? Il boit, il se défonce. Et il nique des nanas parce que, sa femme l'a quitté depuis que emmenant avec elle sa fille. Elle s'est remis à la colle avec un autre mec, bien
à
sûr.
À la coque?
À la colle.
Ah bon?
Avec un autre mec.
Il sniffe de la colle.
David Duchovny donc interprète le rôle principal, celui de cet écrivain, ex-écrivain à succès, qui s'appelle Hank Moody. Natasha McElhon joue le rôle de l'ex, Karen. On a Evan Handler, excellent acteur, qui avait joué dans une petite série sitcom qui était vraiment très très sympatoche, dont je me souviens pas le titre. Alors, Evan Handler, il est facile à reconnaître, il est tout le temps chauve, il est un petit peu, empâté, il est pas franchement gros, mais c'est pas un longiligne non plus. Il joue le rôle de l'agent et du seul ami, qui reste à Hank Moody. Madeleine Martin, c'est la fille que David Duchovny, Hank Moody, croit être gentil, sage, bien élevé et tout, mais qui s'avère être une manipulatrice hors pair. Damien Young, c'est le mec de l'ex, c'est-à-dire c'est le mec de Natasha McElhon. Et on a également Madeleine Zima qui joue le rôle de la maîtresse de Hank Moody. Alors, la série a vachement choqué, a été diffusée par Showtime en août dernier, ça a commencé, c'est-à-dire que c'est très 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 frais quoi. M6 commence la diffusion à la fin pratiquement de la diffusion du dernier épisode de cette première saison qui en compte 13.
Ah tiens, ils ont attendu la fin de la diffusion de la saison, on sait jamais quand même.
Et on peut dire que outre le procès intenté par les Chili Peppers, de nombreuses associations se sont élevées contre ce qui était vraiment une profanation de l'esprit religieux, parce que dans une des premières scènes du pilote, on voit carrément Duchovny se faire tailler une pipe par une nonne dans une église. rassurez-vous, ce n'est qu'un rêve.
Mais quand même.
On voit également Hank qui explique au boyfriend de sa fille qu'il vient de sauter où se trouve le clitoris. On voit également Hank qui vomit sur une toile de maître après avoir fumé un joint avec sa copine. Enfin bon, c'est tout de cet acabit. Alors on pourrait se dire ok, c'est la série super trash et tout, mais le fond de l'histoire en fait c'est la recherche pour Hank Moody. Ils essayent de récupérer sa femme, donc il essaye de reconstruire son couple. C'est ça la vraie histoire de Californication, entrecoupée bien entendu de scènes bien croustillantes que David Duchovny sait faire d'ailleurs. On l'a vu dans des petites apparitions, dans des petites séries où vraiment où il arrive à déconstruire son personnage Scott Mulder vraiment très très bien. Bon, il s'est agréablement planté dans ce qu'il a fait au cinéma par la suite. Hein. On l'a jamais vu dans un film qui a marché. Il a toujours fait plus ou moins des daubes ou des trucs.
Non. Il a
d'autres
aussi.
On peut rire.
Il a aussi fait pas mal de films d'auteurs qui savaient qu'ils n'allaient pas fonctionner, qui n'allaient pas être suivis par les très grosses majors.
Ouais, mais enfin bon.
Ça, il s'est un petit peu investi de ce côté-là.
Ouais, bon, bon, d'accord, ok. Si
bon,
tu veux.
D'accord.
Mais on peut dire que bon, bah, dans cette série, bah, il arrive à retrouver un petit peu son style. Et la série arrive en plus à point nommé parce qu'on sait que il a fallu de nombreuses années avant que Chris Carter n'arrive à récupérer les droits de X-Files pour pouvoir faire la suite de X-Files, X-Files 2, qui sortira cet été prochain, hein, qui est en cours de tournage
au cinéma,
et qui sortira au cinéma donc a priori l'été prochain. Hein,
vous imaginez les délais de production, c'est absolument énorme.
Non, je pense que là ils ont envie de faire le film pour l'été, quoi, justement, quoi, pour surfer sur la vague des films de l'été qui marchent de mieux en mieux.
Et tout, hein.
Donc à découvrir, c'est sur M6. Et donc comme c'est une série qui est vraiment très haute, très osée, c'est du moins 12 du début jusqu'à la fin. Hein, donc c'est programmé très très tard le soir, vendredi prochain à 23h30, les deux premiers épisodes sur M6.
Elle va être contente, Chantal, à la place de Sex in the City.
Roll it.
Ok.
Now.
Woo. Ah oui, bon.
Hein, yo, vas-y, comment je l'envoie avec ma caisse tunée, ouais. Moi je prends pas, c'est méchant. Je suis le chevalier noir sur ma monture, ton arme conique.
Alors,
ben K2000.
Ouais, si pour Californication, il n'y a pas besoin de traduire, hein, on peut l'utiliser en anglais ou en Californication en français, c'est la même chose. K2000, le titre original,
Knight Rider.
Yes, une série produite par la NBC. Et qui a quand même connu 90 épisodes de 82 à 87, diffusés en 86 sur la 5, hein, pour les téléspectateurs français.
Avec ses 4 cascades de voitures rentabilisées sur 80 épisodes.
Ah ouais.
Ouais, mais attends, ils avaient acheté un wagon de voitures à casser.
Non, il y en avait 4. Il y en avait 4 et pas plus. Elle a été créée par Glenn Larson. Glenn Larson qui nous a fait Raymond Burr.
Ah, l'homme de fer.
L'homme de fer qui nous a fait... Galactica, la première version.
Ah, il faut voir l'image.
Pour ceux qui n'ont pas payé la redevance couleur, on
t'as
est désolé.
Joué au Time's Up.
Et K2000, on peut actuellement revoir cette série donc sur NT1 tous les jours de la semaine de 19h, du lundi au vendredi donc à partir de 19h50. Avec dans les rôles principaux Edward Muller qui joue le rôle de Devon Miles, Patricia McPherson c'est Bonnie Barstow, Rebecca Holden c'est April Curtis, et bien sûr David Hasselhoff, ça bon c'est même pas la peine de le dire. La voix de Kit dans la version originale c'est William Daniels et c'est Guy Chapelier qui fait la voix française. Alors Kit c'est une voiture, et c'est quoi comme voiture? Rappelez-vous, une Pontiac Transam Vintage Firebird. Donc à l'époque, c'était une voiture qui était sortie à la fin des années 60, et donc déjà à l'époque, ils avaient du mal à récupérer suffisamment de voitures pour faire toutes les cascades. C'est pour ça que bon, ils se sont limités au niveau des cascades, parce que bon, et en fait, c'est parce que si vous parlez de K2000, c'est pas parce que c'est diffusé par NT1, hein, bon, bah, mais tout simplement parce que bien, il y a un petit peu moins d'un mois sur la NBC, et bien la nouvelle série, le pilote de la nouvelle série K2000 a été diffusé sur NBC, a été suivi par 12,5 millions de téléspectateurs.
Sachant qu'ils sont pris un four, parce que NBC, justement, dans le trip de refaire des séries, ils sont pris un four avec Super Jamie. Hein.
Ouais, mais bon, là, c'est peut-être un petit peu mieux. Alors bon, ben, bien sûr, la voiture a changé, parce que bon, des Pontiac Transam, il n'en existe plus, laisse tomber, c'est pas la peine. Et donc, eh bien, à présent, c'est une voiture un petit peu plus de Monsieur Tout le Monde, on va dire, hein, parce que ce modèle n'est pas un modèle vraiment connu parce que c'est un des modèles les plus récents, mais c'est la 550 HP Ford Shelby GT 5500KR Mustang. Tout le monde a entendu parler de la Ford Mustang, bien entendu. Et là, dans la nouvelle version, bien sûr, David Hasselhoff, on le voit sur la fin. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le héros principal, celui qui conduit la voiture, Justin Brenning, qui s'appelle donc dans la nouvelle série Mike Tracer, est en fait le fils caché de Michael Knight.
Hein ? Qui s'appelle en fait Michael Long.
Michael Knight Long, parce qu'il a été, au début de la série, il a été recueilli, c'est un ancien du Vietnam, il a été recueilli après un grave accident de bagnole par un milliardaire hein, qui l'a retapé physiquement et qui
a
dit non,
bah, de son fils,
en
maudit.
Contrepartie eh bien je te file un super un milliardaire industriel qui a qui fabrique des super technologies et tout et qui donc lui fabrique cette bagnole et dit ouais bon ben bah, tu fileras des coups de main et tout pour que la
pour
justice
sa fondation
triomphe,
pour la fondation
pour
Phoenix
la fondation Phoenix voilà ça c'est
parce que dans le pilote il est trompé par sa femme qui est en fait une putain de salope
ouais et il faut savoir que dans la nouvelle version de K2000, la voix de Kit est interprétée par Val Kilmer. Ah ouais, mon gars, on a mis le créneau très très haut quand même. Alors bon, bah c'est à suivre. Hein, peut-être qu'on aura
le
droit.
Je la trouve beaucoup moins jolie la nouvelle voiture que de K2000. Hein, elle est.
Bah, c'est plus une voiture de Monsieur Tout le Monde, c'est-à-dire elle fait moins voiture un peu futuriste. Comme l'était la Transam à l'époque, hein. Bon, c'était vraiment la voiture. On se disait putain, mais c'est quoi ce truc et tout quoi. Faut se rappeler les voitures qu'il y avait à l'époque, quoi. Hein. C'est bon, c'était un petit peu zarb quand même.
Et est-ce qu'ils vont garder l'idée qu'il y ait d'autres voitures méchantes Parce qu'il y avait d'autres voitures qui avaient au lieu d'avoir l'espèce de d'infrarouge rouge, il était jaune.
Ouais, mais bon.
Et c'était Carl, elle s'appelle.
Ouais. Il y avait aussi le camion.
Je voulais avoir les mêmes en majorette.
Voilà, K2000 donc. Retour. Alors, on se demande pourquoi on ne diffuse pas les séries, les saisons des séries. Bon, alors il y a beaucoup de téléspectateurs qui ont gueulé parce que bon, bah les experts c'était pas diffusé dans l'ordre. Sur M6, on diffuse les séries dans l'ordre des épisodes, mais ben par exemple pour Bones, ben la saison 2 s'est arrêtée à la moitié, hop et puis attends, on va te remettre un petit peu de NCIS qui n'est pas diffusé dans l'ordre sur M6, c'est une des exceptions hein sur M6, on peut dire hein, mais NCIS ils font n'importe quoi, c'est rien à foutre de toute façon, c'est pas grave. Pour Bones, eh bien le retour c'est vendredi prochain à partir de 20h50, on s'était arrêté à mi-saison donc et là bon, on diffuse les épisodes dans l'ordre avec un premier épisode. Alors là, bon, vu le caractère et vu le sujet de la série, hein, médecin anthropologue qui fait bon, qui travaille dans une morgue plus ou moins, enfin très techno, hein, on va dire, avec David Boreanaz, Angel comme flic qui est là pour décompenser un petit peu et puis pour ajouter. Pour se mettre à la place du téléspectateur, c'est-à-dire que bon bah c'est le mec qui sait pas et tout, il pose des questions et tout, il se fait expliquer les trucs, lui c'est le flic quoi de base quoi. Dans le premier épisode, les nerfs à vif, vendredi prochain, eh bien comme guest star Stephen Fry, attention Stephen Fry,
le premier possesseur de Mac en Angleterre, mais surtout le présentateur de QI.
Et c'est l'acteur, c'est un le grand grand acteur, pas seulement par la taille, s'il fait 1m95.
Oui,
je crois.
Il est assez grand.
Mais c'est le président du club d'Oscar Wilde, qu'il a d'ailleurs interprété dans un film. C'est un des mecs qui fait partie de la bande à.
Enfin, c'est les postes Monty Python.
Peter's Friend et Kenneth Branagh, voilà, j'y arrive.
Royal Shakespeare.
Ouais, mais Patrick Stewart également fait partie de la Royal Shakespeare.
Ian McKellen.
Laisse tomber.
Et surtout donc.
Hugh Laurie, enfin bon, j'en passais des meilleurs.
Et
hein.
Surtout donc, présentateur de ce show que j'adore, donc c'est QI, qui est la meilleure audience sur la deuxième chaîne anglaise.
QI,
c'est un jeu où on a des invités célèbres, ils sont là, et ils doivent répondre à des questions dont ils n'ont aucune chance d'avoir la bonne réponse, mais ils gagnent des points s'ils donnent des raisonnements qui sont bons. C'est assez délirant.
C'est tordu
mais ça a pleuré de rire. C'est pas mal, c'est vraiment très très bon.
Ouais, on est loin de Jean-Pierre Foucault. Hein. Deuxième épisode de Bones, c'est Rien ne va plus. Et le troisième, c'est Roman meurtrier. Il faut savoir qu'il y a également demain soir. Bon, on commence à en souper un petit peu. Alors pour les gens qui aiment pas et tout, c'est sûr, ils vont être gavés et ils vont pas aller voir le film. Je pense que c'est un petit peu dommage. Mais par contre, pour ceux qui aiment Olivier Marchal, il n'y a pas de problème. Ils vont y aller. Alors Olivier Marchal, on l'a vu hier. Sur 13e rue Carl Zero, on l'a vu la semaine passée
chez Deniso.
Mais c'est 13e rue hein, qui vraiment pousse à fond les manettes parce que 13e rue diffuse demain soir une soirée Olivier Marchal avec à partir de 20h40 une interview croisée entre Olivier Marchal et Daniel Auteuil. À 20h50, l'indique un film de Serge Leroy de 83 avec Daniel Auteuil, jeune Thierry Lhermitte et Bernard Pierre Donadieu d'après un roman de Roger Bourniche, explique hein, la bande à Bono et tout. Non, pas la bande à Bono, la bande de Pierrot Lefou.
Abader, non?
Non, Pierrot Lefou, voilà, le vrai Pierrot Lefou, quoi. Pas le personnage. Non, pas la version de Godard du tout. À 22h30, toujours sur 13e rue demain soir, Gangster, donc le premier long métrage d'Olivier Marchal en 2001.
Il a été à limite désavoué par Olivier Marchal.
Ouais, mais c'est parce qu'il a été vachement retravaillé ça l'a un peu déplu, c'est-à-dire que il n'avait pas les mains libres sur ce premier film. Sur le deuxième, c'est pareil, hein, 36 Quai des Orfèvres, ça a été un gros succès, mais Olivier Marchal est pas tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, dans les interviews qu'il donne actuellement et tout, il dit après ce film, je suis complètement parti en vrille, fallait que je me ressource sous le bordel et tout.
Je n'ai pas très bien compris ce qu'il entendait par là, mais
moi je comprends très bien, hein, de toute façon, pas de problème vu le passé du bonhomme, on comprend tout de suite. Et d'ailleurs hier soir c'était vachement intéressant cette espèce de discours avec d'anciens patrons de flics. Il y avait Olivier Marchal et sa femme qui est une actrice, Catherine Marchal, hein, qui est connue. Moi je connaissais sa tronche et tout, mais je savais pas que c'était parce que Marchal c'est quand même un nom relativement commun, on va dire, en France. Alors après Gangster, donc avec Richard Anconina, Anne Perriot, le grand François Levental, j'en passe les meilleurs, Francis Renaud qui est dans tous les longs métrages,
le blond, hein.
Le blond dans 36 Quai il est rasé, donc il est pas trop blond, quoi, tu vois. Après Gangster, donc à 22h30, à minuit, Le Sixième Homme, un court-métrage avec Olivier Marchal et Olivier Schneider. Et à 0h15, Parole de flic pour les yeux d'une petite fille. Là, c'est le témoignage en un quart d'heure de ce qui s'est réellement passé et tout. On prend le temps d'expliquer le pourquoi de la chose du dernier film de Olivier Marchal, MR73.
Mais il faudrait qu'il repasse District aussi, la série
Police District,
qui était très bon. Sur M6.
Oui, mais c'est une série, donc c'est long, donc il faut grignoter beaucoup de cases pendant beaucoup de semaines. Alors tu sais, pour un truc qui a déjà été diffusé et tout, les annonceurs ils sont pas d'accord. Ah bah non les gars, allez, attendez, non, faut déconner quand même. Allez, pour les séries, ça ira. S'il y en a encore, hein, parce que j'ai décidé de faire
30,
une petite sélection. Ouais, mais vite fait une petite sélection. Comme c'est la journée de la femme, série, documentaire, film de et ou avec des femmes. facile. Ce soir,
c'est pas
ce soir sur NT1 à 22h25, double séduction de Penelope Boyton-Holtz avec Andrea Roth, Lyndon Ashby et Ray Dawn Chong. Ce soir également sur Comédie, à 20h45, Les Inséparables de Elisabeth Rapneau avec Michel Boujna, Charles Berling et Isabelle Gélinas. À 22h20, là, c'est peut-être plus intéressant parce que Les Inséparables, c'est une série, on va dire, de téléfilm. Comprend rien aux femmes. C'est inédit, donc ça a été tourné par Michaela Vato avec Marianne Merlot, Marina Pastor, Valérie Lemercier, Pascal Clark et Agnès Jaoui. Ce soir, sur Teva, à 20h45, ça tombe bien, c'est une série dont l'héroïne est une femme profiler avec Ali Walker. Et c'est le pilote, si vous n'avez jamais vu cette série, c'est l'occasion de vous y mettre. C'est une excellente série hein, sur une femme profiler avec dans les rôles son patron, interprété magnifiquement par le grand Robert Davi. Et avec le docteur Troy, Julian McMahon, hein, qui s'amuse à essayer de sauter la fille de Robert Davi. Ah, il est pas d'accord, hein. Attends, tu déconnes, faut pas déconner, quoi. Ça, c'est sur TVA ce soir à 20h45. Donc, hein, si vous voulez, vraiment, c'est ce qui avait été diffusé à l'origine par M6 le samedi soir. Hein.
La trilogie.
Demain, sur Sci-Fi à 20h45, c'est Star Trek Voyager, la première licence Star Trek où le capitaine du vaisseau est une femme, Kate Mulgrew en l'occurrence. On y retrouve également Jerry Ryan, qu'on a pu voir comme patronne de James Woods dans Shark. Et il y a également Roxanne Dawson. Lundi sur TF1, c'est la fin. C'est les trois derniers épisodes de la première saison de Ugly Betty à partir de 22h30. Alors pour ceux qui viennent à la réunion de Radio Éphémère lundi, hein, je vous le dis tout de suite, à 22h faut que ce soit plié parce que Fraisière veut être devant sa télé à 22h30. À énergie.
Dommage, d'habitude c'est lui qui me monopolise la parole et qui bloque tout. Je vais y aller exprès puisque je les enregistre.
Voilà, écoute, hein, sur Énergie 12, lundi prochain à 23h30, c'est une télé-réalité mais qui peut s'avérer intéressante. J'ai loupé les deux premiers, alors c'est con, bah, je n'avais pas repéré du tout parce que c'est quand même 23h30. Hein, c'est la nouvelle vie de Tori Spelling. Ouais, ouais, télé-réalité Tori Spelling, qui en a marre de Hollywood et tout, qui se barre carrément en Caroline du Sud pour
élever des patates.
Pour monter un bed and breakfast avec son mari. C'est n'importe quoi, mais c'est Tori Spelling quand même, hein. Faut pas oublier. Il y a également sur Sci-Fi, bien sûr, comme tous les lundis à 20h45, Painkiller Jane. J'ai pas trop le temps de vous en parler et puis de vous faire un petit avis critique sur cette série qui en est à son 5e et 6e épisode lundi prochain. Mardi prochain, sur France 5, un documentaire à 20h45, Les Dessous de la Féminité. L'histoire des dessous féminins, mais c'est un inédit. On avait déjà vu un documentaire sur Arte il y a 2 ans à peu près, hein, sur le même thème. Et là, c'est fait par Bernard Georges. Sur Energy 12 à 20h45, Xena avec Lucy Lawless et René O'Connor.
La représentante de la féminité.
Oui. mardi également sur Teva à 20h45, il y a Missing, donc avec deux héroïnes féminines. Hein. Gloria Ruben et Catherine Scorsone, et là on en est à la saison 1, suivi à 23h05 de The L World, à savoir...
Yes.
Ah ouais, d'accord, ok, je vois, il y en a qui suivent. Mercredi sur TF1, à 23h10, New York Unité Spéciale, vous allez me dire, ouais mais c'est un truc de flic et tout, il n'y a pas de gonzesse, il y a quand même Mariska Hargitay, qui pour l'instant est en stand-by hein, dans la saison 8 de New York Unité Spéciale.
Enfin là,
une raison très simple, c'est que elle était enceinte, elle a accouché, et donc on a foutu son personnage un petit peu de côté.
Tu vas faire une infiltration pour le FBI parce que t'as super bien infiltré ce groupe.
Ouais,
vachement crédible.
Non, mais c'est pas mal quoi quand même.
C'était pas trop mal comme idée, c'est vrai.
C'est pas mal. Et surtout, Connie Nielsen, hein, qui remplace
Connie Nielsen
qui remplace Olivia Benson
et qui vient de craquer, qui dit c'est trop dur, j'en ai marre.
Ah ouais, et pourtant elle a réussi à rouler un palo à Stabler. Et là c'est quand même une première hein, parce que en je ne sais pas combien de centaines d'épisodes de la licence de New York, que ce soit district, que ce soit unité spéciale, que ce soit intention criminelle, il n'y a jamais eu de roulage de palo entre les héros principaux.
Il faut dire que la série n'est pas franchement propice à l'univers, à quelque chose de tendre. C'est quand même très noir.
Si jamais ils sont pris en otage ensemble, tout ça.
Quand même. Alors, dans le premier épisode qui sera diffusé mercredi prochain, quand même, un casting d'enfer avec Brian Dennehy. Là, déjà, respect, pas de problème. Et mercredi prochain, alors un film qui est un monument quand même, qui a lancé pas mal de genres, on va dire, et qui a été remaké une fois, mais de façon atroce. Que c'est tellement atroce que c'est même pas la peine. Pourtant, la gonzesse qui joue dedans, elle est bonne, elle est excellente. C'est La Féline Cat People de Jacques Tourneur de 42 avec Simone Simon. Sur Cinéfix, mercredi prochain à 21h. Ne loupez pas, si vous n'avez jamais vu ce film, ne loupez pas ça. Regardez ce film, vous saurez ce que c'est le vrai cinéma. Jacques Tourneur qui est un novateur, on va dire, hein, dans pas mal de styles, quoi. Il a un petit peu révolutionné ce qui se faisait à l'époque à Hollywood.
Il a fait beaucoup, beaucoup de choses.
Mais il a fait après la suite, hein, L'Homéopard et tout, quoi, qui est moins intéressante. Hein, ça, c'est un des chefs-d'œuvre du cinéma, hein, en noir et blanc, quoi, sans problème. Et vendredi, donc, sur France 5, à 20h55, Boulevard du Palais, un inédit avec Anne Richard, donc, dans le rôle dans le rôle principal, Jean-François Balmer, excellent, et surtout aussi le médecin légiste là, Olivier Saladin là, le mec complètement désabusé qui raconte que des vannes, qui raconte des trucs pas possibles et tout quoi pendant qu'il fait ses autopsies, c'est excellent. Arte pardon, vous diffusez une soirée spéciale sur l'affaire Vera Brune. Alors de ce côté du Rhin, on connaît pas trop et tout, mais c'est une affaire qui a défrayé la chronique après-guerre en 1960 hein. C'est un peu l'équivalent de l'affaire Dominici chez nous. Une histoire criminelle dans laquelle une femme, donc Vera Brune, tue soi-disant son mari et sa maîtresse. Elle a pris 10 perpète, elle est sortie au bout de 18 ans. Et donc ça raconte un petit peu cette histoire. Tout d'abord, le téléfilm en deux parties de 2001, le téléfilm allemand, interprété dans le rôle principal de Vera Brune par Corinne Harfouch. Et à 23h55, le documentaire qui s'appelle Perpétuité pour Vera Brune, dans lequel la vraie Vera Brune, sortie de tôle hein, bien sûr, réexplique son histoire, l'histoire à sa manière, hein, on va dire, sa vérité. Donc c'est sur Arte vendredi prochain à partir de 21h. Et un peu plus tard, quelque chose qui est rediffusé sur Arte, mais peut-être que tu as déjà vu, connaissant ton goût, à 1h35, Femme asiatique, Femme fantasme, un documentaire de 2007.
Non, même pas. Nils m'en a parlé. Donc c'est sur Arte alors ?
Arte, 1h35 du matin, vendredi prochain quand même.
Ah oui, tiens,
c'est dommage que t'as pas un PVR, ça.
Aïe.
T'aimerais bien l'enregistrer. Hein.
Et on termine avec TMC qui, vendredi prochain, rediffuse également une série dont l'héroïne est une femme. C'est Crossing Jordan, preuve à l'appui. Avec l'excellente Gillancy, avec l'excellent Miguel Ferrer, c'est vendredi prochain sur TMC à partir de 23h05.
Les acteurs sont bons et les scénarios des fois sont un peu moyens.
La première saison est pas mal parce que si tu veux, ils ont essayé d'insuffler une espèce de d'histoire qui va faire toute la saison. En fait, c'est le rapprochement entre Gillancy, c'est-à-dire le docteur Jordan et son père, à propos de secrets cachés, à propos de la mort de sa mère et tout. Et de ce côté-là, c'est relativement intéressant, avec bien entendu toujours le même format, savoir l'enquête qui va durer un épisode et tout, et qui se clôt à la fin de l'enquête. Mais dans la première saison, il y a cette espèce d'histoire linéaire qui court toute la saison, la vérité sur la mort de ma mère et tout. Mais c'est pas mal, ça se laisse quand même vachement regarder.
Oula, mon dieu, 13h39 et 58 secondes.
40
Thomas.
Minutes de débordement.
Ouais. Thomas, peux-tu faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission, le supplément au week-end aujourd'hui, en
oui.
cours de route?
Eh bien, entre autres, nous avions un gros agenda, deux bandes dessinées coup de cœur, du Bouddha cosmique, du champ d'astéroïdes et du fantôme chinois, des vikings qui se font latter les gueules par un indien à moitié à poil, du Mulder qui se fait tailler une pipe par une Odin dans une église, le retour de Kit la Pontiac, la journée de la femme, donc des œuvres faites par ou avec des femmes. Une revue de presse avec des gros nénés, Miss Hulk et une nonne en actrice qui a chaud. Et voilà.
Fais-moi un G D20 plus 4 sous la compétence terminer une émission en beauté.
Alors, je fais l'analyse des murs. Et...
Ah, loupé. Bon, et ben tout à l'heure tu me feras le résumé pendant que je plierai tout. Non d'un hommage à Gary Gygax et grande campagne à Donjons et Dragons. Ils ont manqué tout ça. Heureusement, ami auditeur, tu peux réécouter l'intégralité de cette émission avec les chroniques écrites, mais aussi fouiller dans nos archives, laisser nos commentaires, poser des questions, gagner des bandes dessinées par la même occasion. N'hésite pas, il suffit d'aller sur le site web supplémentweekend.tk, supplémentweekend.tk, sans accent ni tiré, ou chercher supplément weekend, MP3 ou FMR, sur Google, et tu tombes sur nous. Et ça, c'est génial. La suite des programmes sur Radio FMR avec de suite, ça c'est du sport. 15h, Zarma Farai. 17h, ça c'est la bonne viande. 18h, Big Bang. 19h, Happy Hero. 20h, la C0 Experience. 21h, 39 Love. Et 23h, le potager. Et avant que l'on plie tout, que Thomas plie tout, c'est lui qui fait le rappel de l'agenda. Pour que je puisse libérer au plus vite à du sport. Et oui, désolé. On commence oui. dès cet après-midi d'ailleurs.
Alors, l'agenda, oui, donc il y aura Nicolas Poupon pour Cri de l'Autruche tome 3 et Frédéric Sassetto pour Ratafia tome 4 à la librairie Gilbert. Ce sera à partir de 14h30. Donc lundi 10, spécial Pi, projection au cinéma du film d'Aaron Aronofsky à l'Utopia, avec des chercheurs sur le cerveau pour entamer la semaine du cerveau. Samedi 15 mars, Igaël Egovox, tome 2, chez Aquileos, qui sera en dédicace à l'album. Et le samedi 22 mars, album toujours chez Delcourt, c'est Morgan et Marf pour l'Ivresse des fantômes, tome 2.
Rendez-vous la semaine prochaine pour une interview ou surprise, même fréquence, même heure, et sinon sur le net. Ciao, bye bye.
Salut.